Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le Monde. Je m'appelle Frédéric Mérand, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du CERIUM et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, l'avortement en Amérique latine, les foulards de la démocratisation. La situation des droits reproductifs est très variable en Amérique latine. L'avortement comme enjeu politique soulève plusieurs questions comme l'autoritarisme, la violence politico-sexuelle, mais aussi les enjeux de culture et de religion. Nous allons en parler aujourd'hui avec Marie-Christine Doran, qui est professeure d'études politiques à l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'Amérique latine, mais aussi directrice de l'Observatoire Violence, Criminalisation et Démocratie. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Frédéric.
On a vu le foulard vert comme symbole du droit à l'avortement, notamment en Argentine et au Chili. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que représente ce foulard vert?
Oui, tout à fait. Donc, je vais le montrer pour ceux qui verront cette émission. Donc, sur ce foulard, c'est écrit « Avortement libre, sécuritaire et gratuit ». Souvent dans les manifestations, donc, les femmes le portent avec un foulard mauve qui représente en fait le pouvoir féminin, donc un point levé au sein du cercle qui représente donc la femme. Donc, ce foulard est utilisé et porté dans les manifestations. Il y a une partie très importante qu'il faut mentionner, c'est que cette lutte pour le droit à l'avortement s'est faite d'abord et avant tout dans les rues. L'Argentine vient tout juste, comme donc vous le savez, de donner plein droit à l'avortement libre, sécuritaire et gratuit. Donc, il y a maintenant seulement 3 pays en Amérique latine qui accordent ce droit, dont Cuba, l'Uruguay depuis 2012, Cuba depuis 1965, l'Uruguay depuis 2012 et l'Argentine qui, après de nombreuses années de lutte, ce mouvement dans les rues a trouvé un certain écho d'abord auprès du Parlement argentin. Le Sénat avait refusé. Et lorsque le nouveau président Alberto Fernandez, qui plutôt représente un peu la tendance péroniste de gauche, c'est un retour, si on veut, au péronisme traditionnel en Argentine, eh bien, donc, le Sénat a fini par céder et entériner donc cette loi qui décriminalise l'avortement en Argentine.
Alors, si je comprends bien, le droit à l'avortement demeure en fait un droit très rare dans les pays d'Amérique latine encore aujourd'hui. On va essayer ensemble de comprendre un peu pourquoi. Alors, une première explication qui vient parfois à l'esprit, c'est l'argument, on va dire, culturel des sociétés plus conservatrices. Est-ce que c'est un élément d'explication important? Parce qu'on observe aussi en Amérique latine, par exemple, des avancées considérables sur le plan de la parité, de la représentation en politique. Alors, comment comprendre ce contraste entre le conservatisme social, pourrait-on dire, mais aussi des avancées réelles? Et comment ça nous aide à comprendre la question du droit à l'avortement?
Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments donc, dans cette question fascinante que vous posez, Frédéric. La première chose là, qu'il faut, si vous me permettez, juste pour situer un peu l'ampleur de la situation des femmes en Amérique latine, selon l'OMS, il y a 3 interruptions de grossesse sur 4 en Amérique latine qui sont faites illégalement. Donc, ça nous montre l'envergure, environ 2 millions par année d'avortements clandestins avec toutes les conséquences qu'on imagine sur la santé des femmes, mais aussi sur leur pénalisation et leur criminalisation. Et c'est ça qui est extrêmement troublant, en fait, c'est de voir l'héritage qui s'est beaucoup consolidé durant la grande période des autoritarismes en Amérique latine, comme vos auditrices et auditeurs doivent le savoir, durant les longues années 70, dès 64 au Brésil jusqu'à presque la fin des années 80 pour le Chili. L'Amérique latine était écrasée par une période d'autoritarisme. Et c'est durant cette période-là que s'est beaucoup consolidé le conservatisme moral qui venait d'abord de l'institution militaire et qui, durant cette période-là, s'est beaucoup allié avec, c'est la période aussi des combats au sein de l'Église catholique. Certains d'entre vous connaissent peut-être la théologie de la libération, qui était un courant plus de gauche progressiste, qui a été écarté au profit, donc le pape Jean-Paul II notamment a nommé de nouveaux évêques partout en Amérique latine pour être sûr qu'il n'y avait pas trop de politique dans le catholicisme. Et vraiment, le catholicisme de droite s'est consolidé. durant les dictatures, et c'est allié avec un nouveau courant religieux qui s'appelle le pentecôtisme, ou justement les religions qu'on appelle évangéliques. Et ces groupes-là ont pris beaucoup, beaucoup d'essor. Par exemple, Pinochet, chaque année, faisait une grande célébration religieuse avec les évangéliques et les catholiques de droite pour remercier Dieu pour le coup d'État, le Te Deum au Chili. Et cette période-là, qui a quand même vraiment duré très longtemps, est restée présente, notamment parce qu'à la fin des dictatures, comme vous le savez sûrement, Frédéric, et peut-être nos auditeurs aussi, donc on a voulu négocier une sortie de dictature en douceur, hein, en accord avec les préceptes à l'époque de la transitologie, la démocratie stable. Donc on a concédé l'amnistie aux militaires, même dans les cas de violence, de terrorisme d'État, amnistie, qui aujourd'hui est un petit peu révoquée par le droit international, mais à peine, je dirais. Et donc, en quelque sorte, cet héritage de la dictature où la femme était vue comme vraiment une personne dangereuse. Au Chili, par exemple, on coupait les pantalons des femmes, on leur interdisait de porter des pantalons. Donc, tout cet héritage-là est resté, en fait, légué, par exemple, dans la Constitution chilienne, qui est encore aujourd'hui, bon, vous le savez, c'est l'objet de la Convention constituante en avril, mais 30 ans après la fin de la dictature, on avait la même Constitution à peu près, avec quelques réformes que celles léguées par Pinochet, et l'esprit conservateur est présent dans ces documents légaux-là. Donc, il y a toute une architecture politico-légale qui explique ça, avec un virage religieux vraiment vers la droite, avec y compris la persécution des gens qui se situent plutôt dans les courants de gauche. Et donc, c'est pour cette raison que dans tout cet héritage-là, l'Amérique latine, dans sa très vaste majorité, comme je vous dis, il y a seulement 3 pays qui reconnaissent l'avortement libre et complet, mais pire que ça, en fait, en Amérique centrale, l'ensemble des pays d'Amérique centrale, sauf le Costa Rica, interdisent entièrement, donc pénalisent l'avortement de la part de la femme ou d'un médecin ou autre personne qui le pratiquerait. Et donc, on peut voir aussi avec, je donne trop de détails, mais par exemple, dans le cas du Brésil, donc on sait que le Brésil, depuis 2018, a un président qui représente une droite populiste autoritaire très, très forte. Et on voit ces traces-là, on voit cette idéologie, puisque le Brésil, récemment, donc non seulement l'avortement n'est pas du tout accessible, il n'était accessible qu'en cas de viol. Hein? Et là, la femme a vraiment la responsabilité de démontrer devant la police qu'elle a été violée. Et si ce n'est pas fait, elle est passible de peine de prison pour avoir menti sur un supposé viol. Donc, on voit ce carcan incroyable qui pèse sur la femme. Elle est toujours coupable. Elle est coupable d'avoir provoqué la grossesse indésirée. Elle est coupable de vouloir l'interrompre. Et ça, ça vient rejoindre, oui, des matrices culturelles, mais qui sont de plus en plus ébranlées, comme peut-être on peut en parler là, dans les nouvelles conceptions du féminisme éco-territorial ou autres qui jouent dans le droit à l'avortement.
Justement, donc, si je comprends bien, on doit moins regarder du côté d'un certain conservatisme atavique que du côté de structures politiques qui ont été mises en place, d'alliances politiques qui, finalement, s'attaquent aux droits des femmes. En même temps, c'est frappant de constater qu'il y a eu beaucoup de gouvernements de gauche en Amérique latine depuis les années 80. Alors, qu'est-ce qui explique que le combat est réussi en Argentine et pas nécessairement ailleurs?
Oui, donc c'est très intéressant. D'abord, justement, je m'aperçois que j'ai omis de répondre à votre question sur la parité et qu'est-ce que ça voulait dire. Ça, c'est assez frappant de voir que l'Amérique latine actuellement, donc dans les pays du monde qui ont le plus de parité homme-femme au Parlement, il y a 4 pays latino-américains, dont la Bolivie, Cuba, le Mexique et le Nicaragua. Le Nicaragua fait partie aussi des pires pays pour la restriction des droits à l'avortement, qui ont été, tout comme au Honduras, enchâssés dans des lois constitutionnelles très difficiles à défaire. Et donc, on voit que tout ça est venu comme une espèce de marketing dans les années 90 pour dire oui, l'Amérique latine veut adhérer à une meilleure représentation des femmes. Donc, on a adopté des lois dans les années 90, mais toujours avec cette idée que Il y a une méfiance, et là j'ai des chiffres accablants à vous donner, il y a une méfiance vis-à-vis des femmes en Amérique latine, notamment parce que, comme dans d'autres continents du monde, ce sont beaucoup les femmes qui se mobilisent et qui s'organisent pour changer des choses, que ce soit justement au niveau des droits reproductifs, mais aussi à tout niveau, pour une meilleure représentation politique. Les femmes autochtones sont très actives. Et donc, ce qu'on observe actuellement, et c'est quelque chose d'effroyable, c'est, et je vais revenir sur l'Argentine dans un instant, c'est que l'Amérique latine, bon, demeure le continent le plus violent du monde. C'est aussi le continent où les femmes défenseurs des droits sont le plus victimes d'assassinats, mais aussi de ce qu'on appelle la violence politico-sexuelle. C'est un concept qui vient du Chili, où donc on utilise l'agression sexuelle, le viol, comme une arme pour terroriser les femmes qui s'engagent en politique. Et ça, ONU Femmes en parle en ce moment. J'invite les auditeurs et auditrices à aller voir. Il y a 9 témoignages de femmes engagées en politique en Amérique latine qui ont vécu ce type de violence-là. Et donc, l'ONU alerte. Donc, on voit que si on veut peut-être des politiciennes bien rangées, qui vont dans le sens. Hein, le Nicaragua, regardez le paradoxe. Le Nicaragua, il y a des femmes au Parlement, c'est parmi les pays, mais ce sont des femmes conservatrices. Ce sont des femmes qui représentent cette tendance à dire l'avortement donc est un crime aux yeux de Dieu, etc. Et donc, les femmes qu'on pénalise à côté de ça, donc on ne peut pas généraliser toutes les femmes, c'est celles qui sont dans la défense des droits, qui veulent une démocratisation, et donc qui s'opposent, par exemple, au fait que le Nicaragua est devenu un pays complètement autoritaire, comme on sait avec les effroyables répressions qu'on a vues. Donc, pourquoi l'Argentine? L'Argentine a vécu, comme vous savez, une dictature parmi les plus féroces, où on a inventé, par exemple, la disparition forcée comme crime. C'est vraiment en Argentine qu'on a mis ça en œuvre pour la première fois en Amérique latine. Et donc, il y avait de forts mouvements, dont le mouvement Ni Una Más, pas une de plus, qui est un mouvement pour lutter contre le féminicide, mais aussi contre les disparitions forcées qui ne sont pas encore éclaircies en Argentine comme ailleurs d'ailleurs. Donc, il y a une forte union, si vous voulez, une convergence de deux grands vecteurs de mobilisation sociale contre les crimes de la dictature dont certains demeurent impunis, et contre le féminicide. On essaie de montrer les liens entre les deux. Et ce mouvement, Ni Una Más, est vraiment particulièrement fort en Argentine. Il a essaimé au Chili aussi. C'est pourquoi c'est en question actuellement. Et il a fini par trouver une canalisation politique avec, il faut le dire, l'élection de ce gouvernement plus ouvert à ces questions-là. Mais ailleurs, en Amérique latine, on a des pays comme la Bolivie, qui n'ont jamais donné le plein accès à l'avortement et qui pourtant est un pays qui a été longtemps gouverné par la gauche avant l'interruption là, de 2019. Et là, on peut penser à plusieurs explications. J'oserais pas, ça faudrait demander aux femmes boliviennes elles-mêmes, mais il y a certainement la crainte au niveau électoral qu'une droite religieuse très forte soit scandalisée. On le voit aux États-Unis, là, l'importance de la lutte contre l'avortement, là, qui nourrit même des mouvements complotistes. Donc, ça, c'est présent aussi en Amérique latine. Et donc, on peut dire peut-être que certains gouvernements plus progressistes à d'autres niveaux n'ont pas eu le courage, si on veut, parce que les mouvements, peut-être la mobilisation n'était pas aussi forte. En Argentine, au Chili, elle est très, très forte.
Vous avez parlé du rôle des églises, vous avez parlé du poids historique des dictatures, de l'autoritarisme. Finalement, ce qu'on voit, c'est que la lutte pour le droit à l'avortement n'est pas qu'un enjeu féministe, ou en tout cas, ça va au-delà des droits reproductifs. Quelle perspective voyez-vous dans les prochaines années pour le droit à l'avortement spécifiquement? Est-ce que le mouvement commencé en Argentine va se diffuser, ou est-ce que vous voyez plutôt les forces de la réaction continuer à s'y opposer?
L'Amérique latine, c'est 26 pays, donc on s'arrache toujours les cheveux pour faire, même moi qui suis en politique comparée, c'est toujours un très grand défi de généraliser à ce niveau-là, mais allons-y par morceaux. Donc, c'est ça, premièrement, il faut dire que le droit international demande instamment, donc l'ONU et l'OMS, mais l'ONU spécifiquement, demande instamment aux pays latino-américains de dépénaliser l'avortement. Et donc, dépendamment si, pourquoi, ben parce que l'avortement viole la vie sexuelle et reproductive des femmes au niveau de la santé. Donc, c'est-à-dire l'interdiction de l'avortement vient nuire au droit à la santé, qui est très important dans les droits universels. Et donc, les pays qui, en quelque part, appliquent réellement ou, disons, légifèrent par rapport au droit international, pourraient voir là un signal très positif pour les aider. Donc, ça c'est certainement un morceau à mentionner. Et dans ce sens-là, c'est sûr que le Brésil est en régression en ce moment. On le sait, le Brésil fait fi de tous les traités internationaux, d'ailleurs poursuivi devant la Cour pénale internationale pour génocide hein, durant la pandémie contre les populations autochtones en ayant laissé des seringueiros, des coupeurs de bois rentrer dans les communautés avec des conséquences effroyables. Donc, ce pays-là, malheureusement, on va le mettre à part, même s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui luttent au prix de leur vie pour le droit à l'avortement et d'autres droits des femmes en général. Mais à côté de ça, on a le Chili, qui est dans une étape paradoxale de son histoire, où est-ce que d'un côté, donc, on a, imaginez-vous, on a réussi l'opposition, et c'est vraiment l'opposition politique au Chili qui a mené cette bataille-là avec la population, à faire imposer la parité dans la représentation au niveau de la Convention constituante qui va avoir lieu en avril. Mais de l'autre côté, le Chili, en ce moment, le gouvernement chilien, la police, continue à commettre des crimes très graves envers les femmes. Il y a 112 plaintes, ça c'est juste la pointe de l'iceberg, pour viol par la police après des manifestations dans les commissariats. Et le gouvernement Piñera ne fait rien. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est la force de la population. Le gouvernement Piñera n'a qu'entre 8 et 15% d'appui selon les semaines où on regarde les sondages. Et tout le monde pense qu'après la Convention constituante, aux prochaines élections, il ne sera pas réélu. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un grand changement. En tout cas, c'est sûr que ce qui commence à essaimer, et ça, on le voit beaucoup au Mexique aussi, dans les États du sud-est du Mexique, c'est un courant qu'on appelle le féminisme éco-territorial. C'est un courant très fort parce qu'il émane aussi des femmes autochtones et des femmes afro-descendantes. Et il a vraiment réussi à faire son chemin en ce moment en Amérique latine. Si on veut, c'est un féminisme latino-américain. Hein, il y avait une réaction un peu négative au féminisme des femmes du Nord importées. En tout cas, dans les années 70, c'était comme ça. Là, c'est un féminisme vraiment autochtone qui émane et qui dit, tout comme nos territoires ont été violés, souillés par la colonisation, par l'extractivisme des ressources naturelles, la pollution, le corps de la femme doit être vu comme ça. Le corps de la femme est abusé. Et donc, c'est très fort comme image. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on voit des gens qui luttent pour le droit à l'eau. Hein, l'eau est privatisée au Honduras, au Chili, et pour la dépénalisation de l'avortement. Donc, c'est très, très intéressant. Si on veut vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir le monde qui dit ben, on ne peut pas avoir un environnement sain si on ne respecte pas aussi le corps des femmes.
Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire à la fois sur le croisement de ces luttes et aussi sur la comparaison des différents pays. Malheureusement, c'est ce que nous devons conclure notre émission sur cette dernière intervention qui portait sur l'avortement et la démocratie en Amérique latine. Alors, un grand merci à vous, Marie-Christine Doran, d'avoir été avec nous, mais aussi à l'équipe technique, à nos recherchistes et à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À bientôt.